Josh, deep shot. Get it! What a perfect ending to a historic day.
Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Two Way pour un épisode, j'ai envie de dire, hors série spécial. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment. Cette fois, on prendra un peu moins de temps que nos habituels 2h45 de discussion. Et Vincent, qui est avec moi comme d'habitude, comment ça va, Vincent ?
Ça va, bah, comme un matin, un dimanche où tu m'as fait me lever.
Comme un dimanche matin, mon pauvre, je te fais lever à midi, c'est catastrophique. Alors, on rentre dans
c'est
le sujet.
C'est la vie de YouTuber, mec.
Hein ?
C'est la vie de YouTuber.
Ah, c'est ça. C'est ça. Alors, on rentre dans le vif du sujet direct. On va parler aujourd'hui de l'équipe de France. On va parler des Bleus.
De la patrie.
La main sur le cœur. Et on va parler de notre chère équipe de France de basket et avec un sujet qui fait rage, qui c'est la discorde, c'est la débâcle. Je n'ai plus de synonyme sur Twitter. C'est catastrophique.
Ça déchaîne les internets, mec.
Voilà, c'est encore une belle phrase de youtubeur, ça.
Disclaimer, on va se faire insulter de racisme d'ici la fin de ce podcast.
Alors, j'allais y arriver justement. On va parler du cas Joel Embiid. Du coup, on a eu une nouvelle, je crois, dans la semaine, enfin, qui est parue de manière plutôt discrète dans le journal officiel, le 4 juillet, qui annonçait que Joel Embiid avait obtenu la nationalité française. On remonte très très rapidement dans la chronologie pour revoir un peu comment on en est arrivé ici.
Parce que mine de rien, c'est quand même un sacré serpent de mer, ça.
Ouais.
On en parle depuis quand même pas mal de temps. Hein, de
NBA, 2016, la première vraie date, c'est 2016. Du coup, il y a eu un rapprochement entre Joel Embiid et la FFBB. Ça avait commencé déjà à diviser un peu les foules. Il y avait un sentiment négatif. On avait beaucoup de notions. On en discutera bien sûr en profondeur après. Ça a été relancé en 2018, il me semble, où il a dit bah, l'équipe de France, pourquoi pas un jour. Et donc voilà, on arrive à ce mois de juillet en 2022 où Joel Embiid obtient la nationalité française.
Et on en a parlé pendant les JO aussi. Hein.
Ce qui relance le débat. Allons-nous voir un jour Joel Embiid revêtir le maillot des Bleus, faire une raquette aux côtés de Rudy Gobert et à nouveau relancer ce gros débat de la naturalisation des joueurs dans une autre nation qui n'est pas celle d'origine. Donc, petit disclaimer avant qu'on se lance, ça reste nos avis personnels. On émet nos opinions, nos ressentis sur le sujet, mais c'est propre à un chacun. Et bien sûr, si vous voulez en discuter avec nous sur Twitter ou sur la page du podcast, faites ça avec le plus grand des respects. Merci.
Ah, moi, je bloque toutes les personnes qui sont pas d'accord avec moi. Donc, je te jure, mec, depuis mon tweet sur Embiid, j'ai bloqué 8 personnes. Mais c'est l'effet RF.
Et on les salue d'ailleurs, ces 8 personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
Mais ouais, du coup, pour en venir un petit peu à ça, je pense qu'il est important d'expliquer au nom de quoi, en fait, Joel Embiid a été naturalisé. Parce que finalement, il y a plusieurs façons d'être naturalisé en France. Il y a ce qu'on appelle d'abord le droit du sol. C'est-à-dire que si vous naissez en France, bah, fatalement, vous pouvez demander la nationalité française. Il y a aussi le droit du sang, ce qui fait que si vous êtes né ailleurs et que votre mère ou votre père ou même votre grand-père... L'arrière-grand-père, je crois que ça ne marche pas. Je crois que c'est juste dans ce truc-là. Et français, dans ce cas, vous pouvez prétendre à la nationalité française. Moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai pu obtenir la nationalité canadienne, parce que ma maman est canadienne. Bref, je raconte ma vie. Ensuite, t'as différents trucs. Tu peux avoir, par exemple, la demande d'asile, si t'es un réfugié politique. Et encore, ça doit passer par plein de choses. Et ensuite, il y a la fameuse texte de loi par lequel Joel Embiid s'est fait naturaliser. C'est un texte de loi qui dit que n'importe quelle personne peut être naturalisée si elle offre si elle offre quelque chose d'incroyable à la France. Donc ça peut être un scientifique, ça peut être un artiste, je sais pas, un géomètre, un ingénieur, et fatalement ça peut être un sportif dans l'optique bien sûr d'aller gagner les JO à la maison. Voilà, c'est donc comme ça que Joel Embiid a été pris.
Donc je reviens tout juste sur la, vu que on en a discuté, le droit du sang, donc est français tout enfant dont au moins l'un des deux parents est français, et on a aussi cette petite alternative, le double droit du sol, un enfant né en France d'un parent étranger, lui-même né en France et français de naissance. Voilà pour les termes juridiques. Donc du coup, tu l'as déjà lancé un peu rapidement, on a ce cas de Joel Embiid qui en tant qu'athlète passe un peu par une voie, on va dire, un peu plus spéciale.
Une voie royale. Hein.
Ouais, plus que royale, surtout quand on voit les contextes actuels géopolitiques, c'est vrai que ça a fait frissonner certains. Je pense qu'on rentre dans le vif du sujet direct. Vincent, cette idée, je dis bien cette idée, parce que pour l'instant, Joel Embiid n'a que la nationalité française. On a eu des plus que des bruits de couloir, des petites phrases ressorties de conférences de presse, d'interviews, etc., qui disent que oui, l'équipe de France, pourquoi pas, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officialisé. Comme Boris Dieu l'avait dit à l'époque, le jour où il obtient sa nationalité française, on verra, il faudra passer par le même processus sélectif, etc.
Ouais, mais après, dans ce cas, de toute façon, en fait, maintenant, la question se pose presque plus, parce que dans le sens où, vu qu'il est français, la balle est dans le camp de Collé. Et même au-delà du camp de Collet, elle est dans le camp de la fédération. Parce que il est français, donc il est sélectionnable. Donc rien ne l'empêche, en fait, de le sélectionner.
Oui, mais c'est juste pour dire que rien n'a été clamé haut et fort. Donc pour l'instant, on a juste ces éléments avec des petites conversations. Donc on en arrive à ce fameux débat. Toi, Vincent, Joel Embiid au bleu, quel est ton ressenti? Quelle est ton opinion? On va pas forcément parler de pour et contre, mais évidemment, il y aura une position à prendre.
Ouais, bah, moi, comme je l'ai dit sur Twitter, je suis tiraillé entre mon sens de l'éthique, qui ferait que, bah, globalement, je suis contre, et aussi ma curiosité de voir Joel Embiid en bleu. Parce que bon, on parle quand même d'un des meilleurs big men, d'un des meilleurs joueurs tout court au monde. En plus, on sait que Collet aime jouer grand avec deux pivots. On l'avait vu avec Rudy et Vincent sur des séquences au JO. Et là, je veux dire, s'imaginer Embiid en plus qui peut stretch et tirer à trois points avec Rudy et pourquoi pas avec Victor dans l'optique des JO. Franchement, qui ne serait pas curieux de voir ça, quoi. Puis même avoir une arme pareille pour aller défendre nos chances pour essayer d'aller sur le playoff. Bien sûr que ça donne envie. En plus, moi, Embiid, je sais que c'est un gars qui divise beaucoup par rapport à son comportement, son leadership qui est pas toujours top, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi, c'est un joueur que j'adore personnellement. C'est un joueur que j'adore voir jouer quand il est en forme. Et en plus, c'est un joueur qui, à titre personnel, me fait marrer, quoi. Donc déjà, je tiens à dire que Embiid, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Par contre, le sens de l'éthique est super important à avoir. Moi, ce qui me gêne là-dedans, d'abord, au-delà du fait qu'on est une nation qui... ça fait 10 ans qu'on se moque de Sergio Ibaka, l'Espagnol, et encore, lui, encore, il a des vraies raisons d'avoir été naturalisé. Voilà. Et là, pour le coup, moi, ce qui me gêne d'abord, c'est que Embiid n'est pas né en France, n'a pas vécu en France, n'a pas été à l'école en France, n'a pas travaillé en France, n'a pas de parents français... On sait que son petit frère habite en France, mais c'est son seul lien avec la France, tu vois. Et ce qui me gêne, c'est que je me dis que, en dehors de ça, il y a plein de gens, des migrants ou pas que, qui actuellement galèrent, qui travaillent en France, souvent au black ou en Uber ou avec des trucs vraiment, vraiment horribles, que je souhaiterais pas à mes pires ennemis, qui sont dans des situations irrégulières, qui ont des enfants qui, pour la plupart du temps, sont scolarisés en France et qui participent, ils sont sur le territoire et participent à la vie commune en France. Et je me dis que eux, pareil, on les traite comme de la merde. Leur demande de visa, c'est un enfer. Quand les flics les chopent, c'est retour à la frontière illico, tu vois. Et je me dis, au nom de quoi Joel Embiid a un passe droit parce que c'est un super basketteur, alors que ces personnes qui participent à l'économie, participent au bien-être ensemble, au projet commun qui est la République, au nom de quoi ces personnes sont traitées comme des malpropres. On les oblige à... Parce qu'il faut voir ce que c'est, hein, les queues dans les préfectures. Et quand ma maman a été nationalisée française, on a eu de la chance que ma maman soit blanche, hein, parce que j'ai vu comment la dame de la préfecture traitait les personnes qui n'étaient pas blanches. Hein. Je sais, là, ça peut paraître un peu démago, mais c'est une vérité. Hein, on vit dans un monde, dans une France, où Marine Le Pen est arrivée au second tour et elle a fait plus de 40% au second tour. Hein. Donc, il faut en avoir conscience aussi de ça. Donc voilà, moi ça me gêne déjà de ce point-là éthiquement. Et ensuite, l'autre point, c'est par rapport aux autres pays, mais ça, je te laisserai développer là-dessus.
Alors, c'est un peu l'axe dans lequel je voulais pas tomber, parce que même s'il faut en avoir conscience, même si l'éthique fait partie de tout un chacun, la base a été posée d'entrée. On sait que c'est un passe-droit de privilégier, parce que justement c'est un athlète de haut niveau. Ça veut pas dire que c'est un athlète, ouais, bah donc c'est normal. Je comprends énormément ce fait là, mais du coup c'est vraiment très compliqué à comparer avec on va dire des personnes lambda, même si c'est pas forcément très beau à dire. Et du coup, ouais, je vais soulever le point que du coup tu n'as pas abordé. C'est en fait ce sentiment, cette réflexion que beaucoup se sont fait. Et beaucoup de joueurs récemment sont un peu montés au créneau dans le sens de il y a plein de pays qui font ça, c'est autorisé, c'est légal, donc pourquoi pas nous ? Et c'est pour ça que dans l'idée purement sportive, et je souligne bien purement sportive, moi, je suis pour. J'aime évidemment l'idée d'avoir Joel Embiid jouer pour les Bleus. On parle quand même d'un des deux meilleurs pivots de la NBA à l'heure actuelle, n'en déplaise à Karl-Anthony Towns.
Mais là, on est tous d'accord là-dessus. De toute façon, ça, c'est... Oui.
Là, on va avoir du factuel de toute manière. Et en fait, même si ça n'a pas été clairement dit, c'est oui, pourquoi pas, plus tard, si ça se fait, très bien. Moi, je trouve ça super agréable de voir un joueur comme Joel Embiid dire « Moi, j'ai envie de jouer pour la France ». C'est con, hein, mais ça me fait vachement plaisir. Et tout en opposition avec tous ces pays qui ont du coup leur naturalisé. Donc, on a l'Espagne qui est coutumier du fait. On a la Slovénie avec Anthony Randolph.
Mike Tobé.
On a, je crois que l'Arménie a naturalisé Chris Jones qui joue à l'Asvel cette année. On a du Edgy Slaughter, on a du D-Bost, ça part en Bulgarie, ça part en Pologne. On a le cas André Blatch avec les Philippines. Donc, on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples dans ce cas-là. Comme tu l'as dit un petit peu, moi, ce qui me chiffonne, comme toi, c'est que Joel Embiid n'a aucune vraie relation avec le territoire français, dans le sens où, comme tu as dit, il n'a pas travaillé, il n'y a pas vécu. Le seul lien qu'il a, du coup, c'est son frère qui y vit et le fait qu'il parle français. Et c'est vachement léger. Moi, ça me dérange un petit peu, évidemment. Et tout est à balancer, en fait, entre le projet basket, l'idée de l'avoir, etc., le fait de se dire, voilà, ces pays-là le font, donc pourquoi pas nous, on peut quand même recruter un calibre immense en termes de joueurs, ça pourrait être vraiment une vraie plus-value. Et pour reprendre du coup le cas de nos chers voisins espagnols, Serge Ibaka, Nicolas Mirotic, ils sont arrivés à l'adolescence en Espagne, ils ont joué en Espagne, ils parlent espagnol, c'est leur deuxième pays, c'est un pays adoptif.
Après Ibaka, il a passé plus de temps en France qu'en Espagne, mais bon.
Oui, mais il y a joué. Donc, juste déjà, ce cas-là, il y a joué, il y a vécu, il est imprégné de toute cette culture. Donc, c'est sûr que sur le papier, ça fait un peu moins... ça paraît un peu plus légitime. Mais on a le cas, cette année, de Lorenzo Brown. Donc, je ne sais pas si tu es un peu au courant. La sélection espagnole galère un petit peu, il n'y a plus trop de cadors.
Il n'y a plus
grand monde et ils ont dit du coup on va naturaliser Lorenzo Brown qui est passé du coup par la NBA qui jouait à Kazan qui est passé par d'autres équipes d'Europe et qui va jouer au Fenerbahçe cette année, qui est américain et qui n'a rien du tout en commun avec la sélection espagnole. Donc les procédures ont été faites. Il me semble aussi qu'il a obtenu la nationalité espagnole et donc il jouera avec la Roja pour les prochaines compétitions. Ça a fait grincer du dents. Ça a fait grincer des dents du monde, y compris le capitaine de l'équipe nationale, du coup Rudy Fernandez, qui a dit si on compare les précédents cas, donc Mirotić et Ibaka, ils ont joué, ils ont vécu en Espagne et lui ça l'emmerde, tu vois. C'est vraiment comme ça qu'il l'a dit. Moi, j'ai dit mon opinion haut et fort, que ça ne me plaisait pas, mais voilà, c'est comme ça, c'est une décision et je l'accepte. Et il faut revenir du coup sur cette idée-là. Donc le capitaine dit « Moi, ça ne me plaît pas, mais je l'accepte. » Et on a vu beaucoup, beaucoup de joueurs sur les récentes années dire « Ah, ça me plaît pas, j'ai pas envie de voir Embiid en France, etc. » On a eu du Tony Parker, on a eu du Evan Fournier, on a eu Boris Diaw qui était un peu plus mitigé dans ses propos, on a eu Edwin Jackson, ce qui est assez risible, prenant en compte que son père, Skeeter, du coup, avait été naturalisé pour jouer avec l'équipe de France. Et petit à petit, avec le temps, là je parle vraiment de début, donc 2016-2018, et petit à petit, on a commencé à avoir des joueurs qui disaient si les autres pays le font, pourquoi pas nous ? Même l'Auvergne a dit, si les autres pays trichent, pourquoi pas la France ?
Ça, c'est un argument avec lequel j'ai beaucoup de mal, ça.
Ouais, moi aussi, dans l'idée de, tu vois, c'est vraiment l'idée d'utiliser le mot triche, et c'est pour ça que vraiment, on est sur un débat très intéressant et très nuancé, et je crois aussi que, donc, Jean-Pierre Suta, qui est le président de la FFVB, me semble, avait dit, tout le monde voudrait avoir un joueur de 2m13 qui plante 20 points par match, on verra bien où ça mènera. Et plus récemment, on a eu du coup deux joueurs qui sont...
Attends, et pour rebondir ce que tu dis, parce que Suita, il dit tout et son contraire tout le temps. Là, récemment, il a dit aussi, je ne veux pas qu'on soit taxé d'aller chercher des talents comme d'autres le font. Les jeunes ne sont pas licenciés et ne sont donc pas protégés. Et à terme, ils ne représentent plus leur pays. Je souhaite au contraire que les joueurs soient licenciés dans leur pays, jouent pour leur pays et que leur éventuel départ soit réglé par la Fédération internationale. Alors c'est bon, je veux dire...
Blanc, noir, gris, crème, perle...
Le mec, c'est un bon politicien, je veux dire, c'est comme quand il dit qu'il faut promouvoir le 3-3 et qu'en même temps, il faut pas non plus que le 3-3 passe devant le 5-5. Enfin, c'est bon, je veux dire, ce qu'il dit de côté, tu vois.
Y a deux autres petites choses dont je vais parler, puis après je te relaisserai la main. Donc, une fois que l'officialisation a été faite, publique, on a le Cameroun de l'autre côté qui a dit très bien pour Embiid, la nationalité française, mais nous on garde espoir quand même qu'il puisse jouer avec le Cameroun. Et c'est vrai que c'est un axe aussi qui, je trouve, reste important et pas mal mis de côté, sûrement parce que du coup on est dans la sphère francophone. Ouais. Mais c'est vrai que à choisir, je préférerais évidemment voir Embiid représenter le Cameroun. On sait à quel point l'Afrique est un vivier de talents. On a le Nigeria aussi. Et moi, j'aimerais beaucoup voir ces confrontations continentales, un peu. Et d'avoir un autre pays qui puisse émerger un peu avec un leader charismatique que pourrait être Joel Embiid. Pas forcément dans son leadership, mais voilà, d'avoir ce duo solide et que ça donne envie à des générations futures de, voilà, au Cameroun, de jouer au basketball, de devenir basketteur professionnel et de lancer une vraie dynamique. Donc c'est vrai que quand tu prends ça en compte aussi, ça rajoute, tu vois, cette idée d'éthique de « Ah merde, on vole chez les autres, c'est comme ça que ça se passe ».
C'est une vieille odeur, un vieux relent de France-Afrique, ce truc-là, tu vois. Genre, on continue. Enfin, pour moi, je sais bien que c'est différent, mais ça pue la France-Afrique à plein nez. Genre, on continue de leur voler tous leurs trucs, tu vois. Après leur avoir volé leurs ressources naturelles et leur économie, maintenant, on leur vole leurs joueurs, tu vois. Genre, c'est bon. Moi, je trouve ça assez dégueulasse, en fait.
Et du coup, je finis sur le dernier point. On a eu deux déclarations. Au micro d'RMC Sport, il me semble, dans la semaine, qui sont très intéressantes, puisqu'en fait, elles viennent de deux joueurs qui peuvent être concernés et impactés au premier degré. C'est Mustapha Fall et Rudy Gobert. Ils jouent sur le même poste, et c'est aussi un argument qui a été mis en avant de recruter Joel Embiid. ça va mettre sur le banc quelqu'un qui est formé par l'INSEP ou par le basketball français depuis des années, qui est
ouais,
là,
qui se bat pour... au... Qui a participé voilà. Parce que bon, ouais. la personne qui va aller sur le banc, ça va être folle, quoi.
Et donc, Fall, lui, il a dit, je me projette pas, je me prends pas la tête pour l'instant, mais s'il est là, il faut le prendre. C'est un joueur qui peut être MVP tous les jours en NBA. L'associer avec Rudy, ça peut être incroyable. Comme tu l'as dit, Vincent Collet aime beaucoup jouer grand. On a vu ces moments, il a toujours des grandes tiges, donc d'en avoir deux sur le terrain, on a vu que ça marchait plutôt bien d'ailleurs. Et voilà, Joel peut tirer le jeu quand même. Il a une palette, un répertoire offensif et défensif qui fait saliver tout le monde. Donc voilà, au niveau éthique, ça pose des problèmes. De l'autre côté, les règles sont les règles. C'est toujours un peu le même débat, mais je trouve ça important d'avoir des joueurs concernés par la position de jeu, prendre une véritable position. Et on a Rudy Gobert, du coup, qui a un peu changé son discours. Il a dit...
Oh, il a carrément retourné sa veste, ouais.
Il a dit, un gars comme Joel Embiid, il n'y en a qu'un seul dans le monde, donc il faut le prendre. S'il a envie de venir, il faut le prendre. Et on ne peut pas dire non à un talent pareil. Et il a terminé son discours sur quelque chose de très important. À partir du moment où ça colle, à partir du moment où on est tous derrière le même message, le même objectif, ça peut être une vraie belle arme. Et c'est là aussi qu'on peut se demander que veut faire Joel Embiid avec les Bleus. Est-ce qu'il veut devenir la vraie star et c'est moi qui décide et je prends 40 tirs par match et vas-y que je vous porte, et puis si l'équipe de France vient à gagner une médaille ou à passer une nouvelle marche sur le palier, de dire bah, c'est grâce à moi, ça j'ai pas envie. Moi j'ai envie de voir un Joel Embiid concerné.
Après là on tire des plans sur la comète, hein. Moi très sincèrement je doute pas une seule seconde qu'il ait envie de jouer avec l'équipe de France, qu'il soit prêt à faire des sacrifices, qu'il soit prêt à ça je doute pas de sa bonne foi, tu vois. Et à la rigueur, j'ai envie de te dire tant mieux et tout, mais en vrai ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est comme tu soulignais là, c'est cette manière dont on a retourné nos vestes, le président de la Fédé en premier, certains joueurs en second, parce que même Nicolas qui avait un discours Nicolas Batum qui avait un discours plus tranché, je trouve, il y a un an, même là commence un petit peu à se la jouer langue de bois, tu vois.
Moi, je pense qu'ils sont au courant du dossier depuis plus longtemps que nous, du coup, et je pense aussi qu'ils ont peut-être eu vent d'un petit communiqué en mode les gars,
c'est bien sûr.
Faut pas que ce soit la merde, donc tu vois.
Mais bien sûr, c'est normal, hein, c'est normal aussi, mais bon, moi ça me gêne ce côté aussi au retournage de veste, tu vois, parce que on est censé être, enfin. On s'est souvent mis dans ce rôle de nation critique par rapport aux autres nations qui font ça, notamment l'Espagne, même si nous, on l'a déjà fait, hein. Mais et plus ou moins récemment. Mais en tout cas, tous les joueurs qu'on a nationalisés, ou presque, avaient un rapport avec la France. Soit ils jouaient dans le championnat français, soit ils avaient des enfants en France, ou ils étaient mariés à une Française, ou ils avaient joué à un moment de leur carrière en France. Bref, ce sont tous des personnes qui, voilà, qu'on soit d'accord ou pas, qui avaient un rapport plus ou moins évident avec la France. Là, on en revient avec ce côté que Embiid n'a pas de rapport avec la
pas
France.
Pas d'attache, ouais.
Ouais, c'est ça. Après, il a sûrement des attaches affectives, hein, culturelles, tout ça. Ça, je le remets pas en question. Hein. Mais c'est ça, je trouve ça dommage. C'est se dire bon, bah, voilà, nous on critique. Par contre, là, on a l'occasion en or de décrocher le jackpot. Bon, bah alors là, l'éthique, tant pis. Hein.
C'est aussi pour ça que le débat fait vraiment rage, parce que si on récupérait un gars de fin de rotation, je pense que personne n'en parlerait. Là, on a vraiment l'occasion de récupérer une arme fatale. Du coup, tout le monde en fait des caisses. Et c'est ce que j'avais noté dans mes notes, que si un jour on venait à tabasser Team USA et l'Espagne au plus haut niveau des plus hautes compétitions internationales, je suis sûr que certains vont nous dire « Mais c'est parce que vous avez récupéré Joel Embiid !» Et là, il faudra leur mettre aussi les faits. Ils l'ont fait aussi, donc on a l'occasion d'avoir quelqu'un qui veut jouer pour la France, et comme tu l'as dit, nous, on suppute ses envies, ses attaches à la France, mais on ne sait pas à quel point il aime le pays. Et c'est pour ça que moi, je mettais en avant de dire si un joueur clame l'envie de jouer, soit on ne va pas discuter ses envies personnelles non plus. On ne sait pas à quel point Joel Embiid est vraiment attaché à notre pays.
Non, mais et là, dans ce cas, Lucas, si demain Pascal Siakam, qui parle parfaitement français, qui est lui aussi camerounais, dit bon bah voilà, go, moi j'ai aussi envie de jouer pour la France, j'ai une culture similaire à la vôtre, je suis fan de Zinedine Zidane. Globalement, c'est plus ou moins ce que Kambi a à dire. Mais dans ce cas-là, on va se dire, bon, bah voilà, c'est vrai que pour avoir un petit CKM au poste 4, pourquoi pas, go.
Mais je vois pas le souci. On est personne pour.
Non, mais mec, évidemment, c'est une sélection. C'est pas un club, tu vois. C'est pas l'ASVEL, c'est l'équipe de France. Lucas?
Oui, bah j'ai rien de particulier à rajouter.
Mais c'est ça qui me gêne aussi, c'est que pour moi, dans l'idéal, l'équipe de France, elle représente la formation à la française, même si bien sûr il y a des contre-exemples genre Noah et tout, mais ça c'est voilà droit du sang. Mais elle représente la formation à la française, elle représente tous ces petits clubs, le travail sur le terrain, l'INSEP aussi, pas mal. La plupart des joueurs sont passés par le championnat de France, au moins une saison. C'est tout ça, tu vois. Par exemple, il y a des gens qui vont nous sortir l'argument Tony Parker. Ouais, mais Tony Parker n'est pas français, il est belgeo-américain. Mais si, frère, il est français. Il est allé à l'école en France, il a habité en France, il a fait ses gammes dans les petits clubs français. Il a fait l'INSEP, il a signé pro à Paris. Enfin, voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, même si bien sûr, là, je suis en train de romancer tout ça, parce qu'on sait bien que ça serait si la LNB jouissait du prestige de ses joueurs en NBA. Hein. On sait bien que c'est l'inverse. Hein. On a vu ça avec le problème des diffuseurs TV. Mais je trouve quand même que, mine de rien, la formation à la française, elle commence à être pas mal reconnue. Pour avoir eu la chance de visiter des centres de formation comme au Mans, par exemple, qui a sorti des mecs comme Batum, mais là, plus récemment, comme Casalon, comme Terry Tarpey, qui, bon, même si lui, il a été formé aux États-Unis, mais en tout cas, il est arrivé jeune. Enfin bref, voilà, c'est ça qui me gêne, c'est que c'est censé être... L'équipe de France, c'est aussi l'équipe de tous les des arbitres qui vont sur le terrain, qui vont arbitrer en régional, des volontaires qui tiennent la buvette. Je sais que c'est un discours très démagogue, mais c'est pour moi c'est ça aussi, tu vois. Et on peut pas substituer tout ça pour une superstar parce qu'elle a envie de jouer, mais qui représente pas tout ça, tu vois. C'est ça qui me gêne.
Je comprends. C'est pour ça aussi qu'on a le droit à un seul naturalisé par équipe. Et c'est pour ça que cette notion d'exception et de tricher une fois ou de ne piocher qu'une seule fois se fait entendre. Évidemment, on ne parle pas de substituer tout un pays, tout un système ou tout un programme.
Ouais, mais bon, là, je te rends bien compte quand même que Embiid, c'est pas la même chose que Ibaka, même si t'es un immense joueur, Ibaka.
C'est ce que je t'ai dit. Le débat prend une trop grosse ampleur parce qu'on peut récupérer un joueur du calibre d'Embiid. Si on récupérait le 11e gars de la rotation, on en aurait à peine parlé.
Ouais, et je pense même pas que la Fédé aurait pris le risque. De toute façon, on a de la chance d'avoir un vivier assez grand. Mais ouais, du coup c'est ça qui me turlupine. Mais bon, bah, là je pense qu'on a exposé à peu près tous nos arguments du pour et contre. Toi, selon toi, est-ce que ça va se faire? Parce que maintenant, comme on a dit au début, la balle est dans le camp de Collet et de la Fédé, parce que Embiid est aussi français que toi et moi maintenant. Du coup, il peut être, sauf que lui, il peut être appelé en équipe de France. Nous, il y a peu de chance.
Alors, à ce sujet-là, je tiens à dire que j'ai été appelé dans l'équipe de France 3e âge du loto d'Aubervilliers. Donc, on se calme.
T'es le franchise player du loto d'Aubervilliers, alors?
J'ai un poignet pour le bingo, t'inquiète. Hein.
Mais du coup, voilà. Maintenant, Embiid peut être appelé en équipe de France. Maintenant, c'est savoir quand il va être appelé, s'il va être appelé. Et il y a aussi les Sixers, mine de rien, qui comptent dans la balance. Toi, tu t'en penses quoi? Tu te positionnes où? Est-ce que tu penses qu'un jour, on verra Embiid sous maillot bleu?
On en avait déjà parlé un peu en off. Pour le coup, moi, je t'avais dit que, évidemment, j'oublie mes mots. Oh, merde. le calibre du joueur est si proéminent que s'il veut jouer, il jouera. Les Sixers pourront pas faire barrage comme ils pourraient faire à l'époque en mode non, bah écoute, gros, t'as été blessé, t'as fait 50 matchs cette année, on n'a pas trop envie de te voir jouer ailleurs et potentiellement te voir un genou pété. Mmh. Et surtout quand on connaît un peu le passif médical. Donc c'est vrai que ça pourrait jouer pas mal. Je pense de toute manière que l'objectif, il est le même pour Embiid, c'est MVP, finale NBA, le titre.
Ouais.
Comme un peu pour tout grand joueur NBA. S'il doit venir, je pense que comme toi, tu l'avais dit, ce serait bien qu'il vienne en 2023, en préparation, un peu tâter le terrain, prendre la température, voir comment tout ça pourrait, la mécanique pourrait bien prendre. Et ensuite, l'objectif est réel, je pense, c'est les JO.
Bah bien sûr, c'est Paris l'objectif. Je pense qu'il n'y a pas à se cacher. Hein. Embiid, il a envie de jouer les JO. Je pense que, comme tu as dit, son premier objectif, bien sûr, c'est le titre NBA. Mais juste derrière, c'est une breloque, aux JO.
Ouais, et puis voilà, le tête-à-tête avec les États-Unis, on a vu qu'on se sent proche, on n'a jamais été aussi proche de les taper.
Ah bah, un Kevin Durant prêt, hein.
Ouais, du coup, c'est sûr que si tu pouvais récupérer Embiid, pourquoi s'en priver ? C'est toujours la même question, quoi. Donc, s'il venait à pas être sélectionné par choix du sélectionneur, donc de Vincent Collet, ou pour des raisons internes.
Ouais, franchement, ça m'étonnerait.
J'aurais du mal à comprendre.
Excuse-moi de te couper, mais ça m'étonnerait qu'on lui ait donné la nationalité dans l'optique de pas le sélectionner. Hein. Mmh. Franchement, pour moi, c'est une question de temps avant qu'il soit en équipe de France. Comme je t'ai dit, ma théorie, c'est que il va. Après, tout dépend des résultats des Sixers et de sa santé physique. Hein. C'est toujours la grande question quand on parle de Embiid. On sait que c'est un mec injury prone. Ensuite, les gens qui vont me dire oui, mais les Sixers, c'est Embiid les Sixers, tu vois. Il a tellement une force de pression dans le sens où les Sixers ont tout intérêt à garder un Embiid plus qu'un Embiid en bonne santé. Ils ont intérêt à garder un Embiid souriant et un Embiid heureux d'être là, tu vois. Donc, je pense pas que le front office des Sixers ait envie de monter au clash avec Joel Embiid. Donc, s'il a envie de jouer en équipe de France, il jouera en équipe de France. Bien évidemment, Embiid, c'est pas un gars qu'on va retrouver à l'Euro. Hein. C'est un gars qui est même au championnat du monde. Moi, ma théorie sur 2023, c'est juste que c'est un an avant pour se roder et puis aller aux JO. Mais je pense que après les JO de Paris, il y a peu de chances qu'on le revoie en équipe de France. Après, ça dépend aussi par rapport à 2023 à ce que feront les Sixers. Si les Sixers vont loin en finale de conf ou en finale NBA, là, la question elle peut se poser parce que mine de rien, il lui faut du repos au gros Jojo. Hein. Donc
Il aura 30 ans, qui plus est, donc...
Ouais, c'est ça, et puis on sait quand même que son jeu est pas mal énergivore, que lui-même revient quand même de grosses blessures, qu'il est assez fragile, et que c'est un gars qui, on a déjà vu, qui sur une fracture de fatigue peut très bien passer son été en chaise roulante, tu vois. Donc faut faire gaffe. Donc je pense vraiment que c'est il y a juste une blessure qui pourrait empêcher Joel Embiid de jouer en équipe de France. Pour moi c'est acté, Joel Embiid s'il est en forme, s'il est en forme et qu'il n'y a pas de clash avec le groupe, mais je pense pas qu'il y en aura parce que je pense que si Embiid vient, il sera assez intelligent pour se dire
pour se mettre au service du collectif.
Ouais, ça franchement j'en doute pas. Je sais que comprendre. C'est un piètre leader, on l'a vu avec les Sixers. Mais
justement, t'as Evan pour ça. T'as Evan et Rudy, et ouais. Pour le coup, ils pourront jouer la carte de la légitimité en mode, on va le dire crûment, mais bon, ta gueule, on a attendu que Parker se barre, donc là, maintenant, c'est nous les patrons. Tu vois, toi, tu fais ton taf sur le terrain, et puis voilà.
Non, puis je pense que Collet, c'est bien faire son taf aussi. Hein. Je pense que Collet saura comment gérer les égos de chacun. Moi, je me souviens de cette période d'équipe de France un peu bizarre où il y avait des tensions entre Parker, les jeunes, Nando et tout ça. Et finalement, tu vois que ça s'est bien goupillé, finalement, cette affaire. Donc, non, je pense que Joel Embiid en bleu, bah, ça va être très bientôt une réalité. Quoi.
Ouais, et puis bon, hein, le voir sur du basket FIBA, ça peut rester très intéressant quand on connaît le gaillard.
Voilà, donc, là, ça va être une boucherie. Hein.
On peut avoir des affrontements Giannis en sélection grecque, Embiid, Jokic avec la Serbie, Luka avec la Slovénie, je veux dire, pour le basket européen. Et la FIBA, globalement parlant, c'est la petite sauce crème oignon avec les Pringles, tu vois.
Ouais, bien sûr. Et puis même pour le rayonnement de l'équipe de France. Hein. Là, je dis des choses qui sont complètement contraires à ce que je pense, mais enfin, à mes convictions profondes. Mais c'est clair que pour le rayonnement de l'équipe de France, c'est autre chose, hein, parce qu'on va en entendre parler de l'équipe de France, en bien ou en mal, on va en entendre parler. S'il y a du Joel Embiid, attendez-vous à ce qu'il y ait des sujets aux 20h et même dans la presse internationale. Enfin, l'équipe de France va être scrutée. Hein. Je pense que tu sais, les matchs là, et là bientôt il y a un match à Montpellier là contre l'Italie. C'est, je pense que dans le rayon près, enfin dans le truc presse, il y aura pas grand monde. Par contre, le jour où il y aura Embiid, il y aura des médias du monde entier. Hein. Ça c'est clair et net et précis. Hein. Tu sais, j'ai pu le voir à l'échelle de petites compétitions que j'ai pu couvrir. Dès qu'il y a une star internationale, c'est le premier jour, la star est pas là, il y a que les petits médias locaux, et le deuxième jour, la star est là, et tu te retrouves avec des médias du monde entier. Je pense que là, ça va faire pareil, il va y avoir un boom, et il va y avoir, mine de rien, un truc qui pourrait rentrer en compte, c'est un surplus de pression sur les épaules des Bleus. Après, on sait que les mecs, ils sont habitués à gérer la pression, à faire des grosses déclats bien badass, et puis à assurer d'ailleurs. Mais là...
Bah, on n'aura jamais été autant scruté que maintenant, quoi.
Ah bah c'est clair, hein. Déjà qu'on part quand même en tant que vice-champion olympique, on part avec une nouvelle arme et tout, là, va pas falloir aller à la catastrophe à la maison, hein. C'est non. Médaille minimum. Hein.
Et comme Evan l'a dit, on gagne rarement à la maison, donc raison de plus pour bien s'armer.
Ah bah c'est clair que le fantôme de Villeneuve d'Ascq est toujours là, quoi.
Je vois pas de quoi tu parles.
Ah ouais, si, moi je vois très bien.
Moi le déni est clair. Hein. Ouais. Moi je t'ai dit, en plus j'habitais en Espagne, on l'a regardé avec des copains espagnols, donc bon, j'ai encore le trauma, moi.
Quel enfer, non, ce match m'a fait pleurer de bout en bout. Et en plus, je comprends toujours pas comment on l'a perdu, ce match.
On a gagné, mais on n'a pas perdu.
Ouais, c'est ça. Nico a mis son buzzer pour aller en prolongue et puis on a gagné les prolongues, c'est ça?
Non, Nico a mis son buzzer et on a gagné.
Ouais, bah non, parce que c'était pour égaliser son buzzer.
Non, on a gagné.
Ok, d'accord. Il y a eu faute et il y a eu N1 en fait, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Ok. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet.
Ouais, on peut boucler. Hein. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de parler des anciens qui ont été naturalisés avant Joel Embiid. Donc.
Bah, je pense que voilà, t'as un dernier point pour conclure ou quelque chose comme ça?
Non, moi, mon avis était assez pas arrêté, tu vois, parce que ça demande beaucoup de flexibilité, je pense, et beaucoup, beaucoup de choses extérieures au basketball qui peuvent changer une décision, une pensée. Mm-hmm. C'est juste, on le rappelle, rester ouvert, pas de hier sur ce genre de débat, évidemment.
Non, mais tu peux ne pas rester ouvert aussi, hein, tu peux avoir un avis tranché, mettre de façon respectueuse.
Ouais, accepter celui des autres. N'hésitez pas à en débattre parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui peuvent avoir des arguments intéressants. Tu vois, moi, en tant qu'expatrié à l'heure actuelle ou toi avec ton passif, comme tu l'as un petit peu expliqué, on voit toujours les choses d'une manière différente. C'est toujours très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait ce petit encart, petit épisode spécial. Et puis voilà, moi, je crois que c'est tout. Si t'as autre chose à ajouter, à
ouais, toi. Moi, je pense que malgré le fait que, tu vois, genre, que ça soit contraire à mon sens de l'éthique, si Joel Embiid est sélectionné, ça m'empêchera pas de continuer à supporter l'équipe de France, tu vois. Voilà, c'est l'équipe que je supporte le plus, même au-delà des Spurs. Voilà, je troquerai un titre des Spurs contre une médaille d'or olympique, même deux. Donc, peu importe la décision finale, faudra l'accepter et faire avec, et puis continuer à supporter les Bleus, quoi.
Et si Keldon Johnson demande la nationalité française?
Ben on lui donne, bien sûr, évidemment. Il n'y a pas de raison.
Donc voilà, ce sera sur cette pointe d'humour qu'on termine cet épisode spécial. Comme je vous l'ai dit en début de podcast, n'hésitez pas à venir en discuter, que ce soit sur le compte Twitter de Vincent, donc @VincentLoïc-P, le mien @LucasJCB ou celui du podcast @Podcast2Way. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes principales de streaming de podcast, donc on est sur Spotify, Apple Podcast et j'en passe. On vous fait plein de gros bisous, profitez votre été et puis on se retrouve très 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 vite pour un nouvel épisode.
Et comme disait Johnny, Allez les bleus, on est tous ensemble.
C'est beau, j'en ai des frissons.
Curry, way downtown, bang, bang! Oh, what a shot from Curry! Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Bosh, back out to Allen, his three-pointer, bang! Tie game!
Rush, deep shot,
get it! What a perfect ending! To a historic